Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, c'est aujourd'hui le dimanche des Rameaux. Nous sommes à l'entrée de la grande semaine sainte, la semaine des grâces. La semaine qui est la plus importante de toute l'année liturgique. N'oublions pas d'utiliser avant tout cette semaine pour faire une bonne confession, je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, afin de remplir nos obligations de catholique, nous devons au moins pendant le temps de la Passion nettoyer complètement notre âme pour que notre Seigneur Jésus-Christ ne puisse pas dire « Je suis mort pour rien à ton sujet, tu n'as pas voulu accepter les conséquences de ma Passion ». Je voudrais, mes bien chers frères, en ce sermon, continuer un petit peu ce que j'avais déjà commencé d'expliquer la semaine dernière. Il y a tellement de choses à dire qu'on ne peut pas tout expliquer. Encore une fois, prenez votre missel et même si vous ne pouvez pas assister à toutes les messes de la semaine sainte, lisez au moins les textes liturgiques de chaque jour. Ils sont splendides. Encore une fois, ne tombons pas dans la même erreur que les Juifs. Je vous l'ai dit dimanche dernier, je crois, qui attendaient tous un Messie glorieux et qui voyant devant eux, au lieu d'un Messie glorieux qu'ils attendaient, ayant devant eux un Messie souffrant, ont refusé ce Messie souffrant en disant « c'est pas possible, celui-là on n'en veut pas, c'est l'autre qu'on veut, le Messie glorieux ». Donc ils voulaient bien aller vers le ciel, mais ils ne voulaient pas passer par le passage de la croix. Alors, mes bien chers frères, nous aussi, nous sommes un petit peu pareils. Instinctivement, nous cherchons toujours le Messie glorieux et nous faisons le Messie souffrant. Le Messie souffrant, comment se traduit-il? Le Messie souffrant, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui porte sa croix. C'est ça le Messie souffrant. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous montre les entrailles de sa miséricorde en portant la croix pour chacun d'entre nous. Là apparaît l'humanité est vraiment de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, en refusant, comme beaucoup, ce Messie souffrant, eh bien, nous rejetons ce qui est derrière ce Messie souffrant, à savoir sa miséricorde. Notre Seigneur Jésus-Christ, est évident, va manifester sa miséricorde des deux côtés, et par le Messie souffrant et par le Messie glorieux, mais peut-être pendant la Passion, c'est surtout dans la souffrance de la Passion, dans la souffrance de notre Seigneur qui porte sa croix, qu'il manifeste cet amour incroyable pour nous. Et si je refuse ce Messie souffrant, je refuse la miséricorde. Et refusant la miséricorde, il ne restera pour moi, le jour de ma mort, qu'une seule chose. Que Dieu sera obligé de nous dire, puisque tu as refusé ma miséricorde, puisque tu n'as pas voulu de ma miséricorde que je t'apportais sur un plateau pendant la Passion, alors je suis désolé, mais pour toi il reste que la justice. Allez, maudit au feu éternel, préparé pour Satan et ses anges. Voilà ce que nous entendrons. Mais au contraire, si nous pouvons justement nous utiliser cette miséricorde extraordinaire de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous, nous entendrons l'autre phrase. Venez les bénis de mon Père. Venez. Participer aux conséquences de la Passion. Les conséquences de la Passion, pour ceux qui les acceptent, c'est quoi? Les conséquences de la Passion, c'est le Messie glorieux, l'entrée au ciel. Alors, pour mettre un petit peu en pratique ces choses-là, je voudrais simplement reprendre quelques phrases de la Passion. On n'a pas le temps de tout faire, encore une fois. La première des phrases, qui est peut-être une des plus importantes des dernières paroles de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, c'est la petite phrase toute simple, toute courte, « Sitio, j'ai soif ». Notre Seigneur Jésus-Christ ne parle pas d'une soif physique. Le centurion qui a entendu notre Seigneur Jésus-Christ dire « j'ai soif », il prend tout de suite une éponge, il la trempe dans un liquide, dans de l'eau, mélangée avec du vinaigre, et puis il la met au bout d'une lance, il présente cette éponge à notre Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce que va faire notre Seigneur Jésus-Christ? Il refuse cette consolation sensible, parce que ce n'est pas de celle-là dont il a besoin. Ce n'est pas celle-là qu'il recherche. Il a soif d'autre chose. Il a soif de quoi? Il a soif d'âme. Il a soif de mon âme. Notre Seigneur Jésus-Christ, du haut de la croix, avant de mourir, a dû voir. Il est Dieu, il voit tout. Chacune de nos âmes passer devant lui. Il a dû voir individuellement chacune de nos âmes, chacun de nos péchés qu'il était en train de payer en souffrant le martyr de la croix. Et donc quand il nous dit « Sitio », il nous interroge « Qui veut m'aider ?» Qui accepte de m'aider à porter ma croix? Quel est le condamné, justement condamné, le condamné coupable qui accepte de porter la croix qu'il devrait porter, que je porte pour lui? Qui accepte de venir m'aider à porter cette croix que vous devriez porter? C'est vraiment le monde à l'envers. Nous devrions porter notre croix. Et notre Seigneur Jésus-Christ vient nous aider un petit peu à la porter pour que nous ne nous décourageons pas. Et c'est l'inverse qui se passe. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui porte ma croix et il me demande de venir un petit peu l'aider quand même. Parce qu'il est homme et en tant qu'homme, il peut se décourager en tant qu'homme. D'ailleurs, il s'est découragé humainement parlant. Il y a une tentation, plus exactement, de découragement. Au sommet de la colline de Gethsémani. Encore une phrase qu'on pourrait méditer pendant des heures. Mon âme est triste à en mourir. S'il est possible, Père, que ce calice de ma passion passe loin de moi, cependant non pas ma volonté, mais que la volonté soit faite, votre volonté soit faite. Mon âme est triste à en mourir. Notre Seigneur Jésus-Christ, on ne peut pas dire qu'il se décourage, on peut dire qu'il est tombé en désolation. Le découragement de notre Seigneur n'est bien sûr pas un découragement coupable, mais il est tombé en désolation pour nous apprendre ce que nous devons faire lorsque nous tombons en désolation. Qui veut m'aider? C'est la notion de compassion. Qui veut souffrir un petit peu avec moi? Imaginons que nous avons un membre très cher de notre famille, un ami intime qui est en prison pour un crime qu'il a commis ou pour un crime qu'il n'a pas commis. Dans le cas de notre Seigneur Jésus-Christ, il est l'ami avec un grand A, il est en prison pour un crime qu'il n'a pas commis, pour un crime que j'ai commis. Mais imaginons, pour simplifier, même un ami en prison. Il y a plusieurs façons de l'aider, plusieurs degrés pour manifester notre compassion à son sujet. Le premier degré, c'est simplement de lui envoyer un petit mot, en espérant qu'il l'aura en prison. Voilà, j'ai appris que vous étiez en prison, alors sachez que je suis tout cœur avec vous, je prie pour vous, je souffre de vous savoir en prison. C'est déjà une petite consolation pour la personne qui est en prison. Le deuxième degré, c'est d'aller le rendre visite à cet ami en prison. Demande l'autorisation d'être à côté de lui, de l'autre côté des grilles, et puis par les grilles, on passe sa main pour prendre la sienne et pour lui dire « Je suis là, je ne peux pas faire grand-chose, mais je suis là. » Troisième degré, on monte dans l'amour pour cette personne qui est en prison. Troisième degré, c'est de venir avec lui dans la prison. Dans la pièce où je suis, où notre ami est enchaîné. Et venir s'asseoir à côté de lui et d'être avec lui, le prendre dans ses bras pour le consoler. Et le quatrième degré, le plus parfait, c'est de s'arranger pour aller voir les autorités juridiques qui ont condamné mon ami. Il leur dit, écoutez, voilà, c'est mon ami qui est en prison. Alors, je voudrais vous demander une chose. Libérez-le et je prends sa place. L'important, c'est qu'il y ait quelqu'un qui soit en train de payer pour les offenses qui ont été commises. Alors, je prends sa place. On libère votre ami et on vous met à sa place comme prisonnier. Eh bien, c'est ce quatrième degré que notre Seigneur Jésus-Christ a voulu choisir. C'est même plus que ça, parce que si je prends la place d'un prisonnier coupable, c'est une chose, mais notre Seigneur Jésus-Christ prend la place. Excusez-moi, si je prends notre Seigneur Jésus-Christ va prendre la place d'un prisonnier coupable. Nous sommes coupables de tous ces péchés. Il y a cette belle histoire que je raconte souvent aux enfants. Je ne sais pas si j'ai déjà dit en sermon, je vous le répète pour peut-être aider un peu les personnes qui n'ont jamais entendu. Elle est magnifique, une histoire du Moyen-Âge. Un chevalier qui avait très mal géré ses pouvoirs de chevalier, et au lieu de mettre son épée et son glaive et son bouclier au service de la veuve et de l'orphelin, il avait utilisé son pouvoir de chevalier pour escroquer les gens et tuer les pauvres et les orphelins au lieu de les aider. Il avait terminé par être rattrapé par la justice royale et mis en prison. Et puis les prisons du Moyen-Âge, c'était pas facile, c'était pas comme aujourd'hui. Alors il était sur la paille pourrie, dans un sombre souterrain, il était enchaîné. Et l'épouse de ce chevalier est allée voir le Seigneur qui avait fait mettre en prison son mari. Elle lui a montré son alliance, l'alliance de son mariage, qui était à son doigt. Elle lui a dit, voilà, je voudrais aller en prison avec lui. Mais enfin, madame, vous n'y pensez pas, il y a la paille pourrie, c'est l'obscurité, c'est l'air vicié, c'est les rats. Vous ne vous rendez pas compte, vous n'avez pas, vous, en tant que grande dame de ce monde, à aller là-bas, voyons. Il est mon mari, et je voudrais aller avec lui. Elle est allée avec lui. Elle a abandonné son château pour aller souffrir avec son mari en prison, parce que même si c'était un bandit, il était toujours son mari. Mais c'est un peu ce que fait notre Seigneur Jésus-Christ. Alors méditons un peu là-dessus. Et puisque notre Seigneur Jésus-Christ prend ma place, alors que c'est moi qui devrais être en prison, le moins que je puisse faire, c'est d'essayer d'être assez proche de lui pour lui demander pardon, parce qu'il est à ma place, alors que c'est moi qui devrais être en prison, et lui qui devrait être dehors. Je vous laisse méditer là-dessus, mes bien chers frères. Deuxième point de méditation qu'on peut trouver dans les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, encore une fois il y en a beaucoup, c'est la phrase magnifique « Pourquoi m'avez-vous abandonné ? Pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Une phrase tellement incroyable que beaucoup de gens, des hérétiques, vont l'utiliser comme une excuse pour tomber dans l'hérésie. Ils vont dire « Mais si notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, a dit à son père, en parlant de son père, pourquoi m'avez-vous abandonné ? Alors, il n'est pas Dieu, c'est pas possible. » Et notre Seigneur Jésus-Christ a une double volonté, bien sûr, il a une double intelligence. Il a une intelligence divine, une intelligence humaine, une volonté divine, une volonté humaine. Et c'est en tant qu'homme qu'il dit cela. « Père, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Alors, il faut méditer là-dessus. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ va prononcer la même phrase pour chacun d'entre nous. Notre Seigneur Jésus-Christ va nous dire, « Mon enfant, pourquoi m'as-tu abandonné ? Je t'ai donné la grâce du baptême, je t'ai donné la grâce de la confession, je t'ai donné la grâce de la communion, je t'ai donné la grâce de l'éducation catholique, je t'ai donné la grâce de me connaître. » Et tu m'as abandonné, tu m'as traité comme le dernier des derniers. Pourquoi m'as-tu abandonné ? Il y a dans le prophète Isaïe des phrases extraordinaires qu'il nous faut relire. Je vous conseille beaucoup, pour ceux qui ont un peu de temps ou qui veulent le trouver, de lire les prophéties d'Isaïe. Et c'est au chapitre 49, verset 15, il y a une phrase magnifique d'Isaïe. Une femme peut-elle oublier son enfant et n'avoir pas pitié du fils de ses entrailles ? Mais quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai pas. C'est-à-dire que même si une maman oublie le fruit de ses entrailles, moi, je ne peux pas oublier le fruit de mes entrailles spirituelles. Voici l'Isaïe, verset 16, chapitre 49, verset 16. Je t'ai gravé sur mes mains. Ça veut dire quoi ? J'ai gravé ton nom sur les paumes de mes mains. Pour ne jamais les oublier. Il y a beaucoup, beaucoup de textes qu'on peut et qu'on doit méditer, qui sont pris en partie d'ailleurs dans les bréviaires du temps de la Passion. Je vous donne d'autres exemples de ces textes splendides qui s'adaptent, qui s'appliquent évidemment à notre Seigneur Jésus-Christ, qui ont été écrits par Isaïe des siècles et des siècles avant la Passion, mais qui parlaient déjà de notre Seigneur. « J'ai abandonné mon corps à ceux qui me frappaient. » Chapitre 50, verset 6. « J'ai abandonné mon cœur à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas détourné mon visage de ceux qui me couvraient d'injures et de crachats. Et le Seigneur Dieu est mon protecteur, c'est pourquoi je n'ai pas été confondu. Ensuite, il y a des textes encore plus beaux. Je n'ai pas le temps de tout vous lire parce que ça dépasserait le cadre d'un simple sermon, mais il y a certainement les plus belles pages d'Isaïe sont au chapitre 53. Il s'élèvera comme devant lui comme un arbrisseau, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Et voilà les prophéties qui relèvent, qui parlent du Christ, du Messie, Messie souffrant. Il n'a ni beauté, ni éclat. Nous l'avons vu, il n'avait pas d'apparence et nous l'avons méconnu. Ça c'est pour nous. Nous avons méconnu notre Seigneur. Et Isaïe continue, chapitre 53, verset 3. Il était méprisé, le dernier des hommes, un homme de douleur qui connaît la souffrance. Son visage était caché, il était méprisé. Et nous n'avons fait aucun cas de lui. Vraiment, il a porté nos langueurs et il s'est chargé lui-même de nos douleurs. Et nous l'avons considéré comme un lépreux, comme un homme frappé de Dieu et humilié. Et cependant, il a été blessé pour nos iniquités. Il a été brisé pour nos crimes. Le châtiment qui nous procure la paix est tombé sur lui. Nous avons été guéris par ses meurtrissures. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun s'était détourné sur sa propre voie. Et le Seigneur a placé sur lui l'iniquité de nous tous. Cette phrase d'Isaïe qui résume toute la passion. Le Seigneur a placé sur son humanité tous nos péchés. Il a été offert parce que lui-même l'a voulu. Il n'a pas ouvert la bouche comme une brebis qu'on mène à la boucherie. Comme un agneau devant celui qui le tond, il a gardé le silence. Il n'a pas ouvert la bouche. Bien, chers frères, encore une fois, méditons ces textes. Utilisons ces parties magnifiques de l'Ancien Testament. Il y a aussi, toujours dans Isaïe, chapitre 59, premier verset, des chapitres 59 sont aussi magnifiques. La main du Seigneur n'est pas raccourcie de manière à ne pouvoir plus sauver. Et son oreille n'est pas devenue dure de manière à ne plus pouvoir entendre. Mais ce sont vos iniquités qui ont mis une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui lui ont fait cacher sa face pour ne plus vous exaucer. Car vos mains sont souillées de sang, vos doigts d'iniquité, vos lèvres ont proféré le mensonge et votre langue dit l'iniquité. L'iniquité. Méditons cette phrase. Ce sont mes péchés qui ont mis une séparation entre moi et mon Dieu. Ce sont mes péchés qui lui ont fait cacher sa face pour ne plus m'exaucer. C'est pas Dieu qui m'a abandonné, c'est moi qui l'ai abandonné. C'est parce que j'ai abandonné notre Seigneur Jésus-Christ que notre Seigneur qui respecte ma volonté propre me laisse justement tomber d'une certaine façon, au moins partiellement. Au moins pendant un certain temps. Et même s'il me donne l'impression de me laisser tomber, il ne me laisse pas complètement tomber parce qu'il va revenir frapper à ma porte. Mais il ne va pas rentrer dans ma maison pour me ramener sur le bon chemin si je ne veux pas ouvrir la porte. On peut aussi utiliser, dans le même cadre, pour méditer les impropères. Je ne vais pas toutes vous les lire, on n'a pas le temps. Les impropères, on les trouve au Vendredi Saint. Lisez, mes bien chers frères, relisez au Vendredi Saint ces prières magnifiques. Ô mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je contisté? Réponds-moi. Est-ce que parce que je t'ai conduit dans le désert pendant 40 ans, nourri de la manne et fait entrer dans une terre de choix, que tu as préparé une croix à ton sauveur? Qu'aurais-je dû faire pour toi que je n'ai point fait? Moi-même, je t'ai planté comme la plus éclatante de mes vignes, et tu ne m'as donné que de l'amertume, car dans ma soif, tu m'as abreuvé de vinaigre et tu as percé d'une lance ce côté de ton sauveur. Par amour pour toi, j'ai frappé l'Égypte dans ses premiers nés, et toi, tu m'as livré à la mort après m'avoir flagellé. Je t'ai tiré d'Égypte et j'ai submergé le Pharaon dans la mer rouge, et toi tu m'as livré au prince des prêtres. Je t'ai ouvert un passage dans la mer, et toi tu m'as ouvert le côté avec une lance. J'ai marché devant toi dans une colonne de nuée et toi, tu m'as mené au prétoire de Pilate. Je t'ai nourri de la manne dans le désert et toi, tu m'as meurtri de soufflets et de coups. Je t'ai abreuvé de l'eau salutaire sortie du rocher et toi, tu m'as abreuvé de fiel et de vinaigre. À cause de toi, j'ai frappé les rois de Canaan et toi, tu m'as frappé la tête avec un roseau. Je t'ai donné le sceptre de la royauté et toi, tu as mis sur ma tête une couronne d'épines. Je t'ai élevé à une haute puissance et toi, tu m'as attaché au gibet de la croix. Ô mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je contristé? Réponds-moi. Alors, mes bien chers frères, utilisons bien ce temps de la passion. Dieu donne des grâces toutes particulières pour que nous comprenions les affres de notre Seigneur Jésus-Christ qui porte sa croix pour moi, qui est crucifié pour moi, qui meurt comme le dernier des esclaves pour chacun d'entre nous et pour moi en particulier. On peut utiliser une troisième phrase. Je vais vous laisser méditer là-dessus parce qu'encore une fois, à cadre d'un sermon, on ne peut pas tout expliquer. Et une troisième phrase que je propose à votre méditation pour cette semaine de la semaine sainte, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Notre Seigneur Jésus-Christ pouvait dire ça de beaucoup des gens qui étaient à Jérusalem, qui ne savaient pas vraiment ce qu'ils faisaient. Est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ peut dire ça de chacun d'entre nous? Mon Père, pardonnez à ce jeune homme, pardonnez à cette jeune fille, pardonnez à cette personne, pardonnez à cette père de famille, pardonnez à cette mère de famille, pardonnez à ce prêtre, parce que ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Non. Nous, on sait, c'est pour ça que nos péchés à nous sont bien plus graves que les péchés des Juifs. Je vous l'ai déjà expliqué dimanche dernier. Notre Seigneur Jésus-Christ peut peut-être dire, et pourrait dire, pardonnez-lui, ô mon Père, parce qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Mais aujourd'hui, il a décidé de changer. Aujourd'hui, il a décidé d'aller se confesser, d'utiliser le sang de la passion, le sang qui coule sur la croix. Il a décidé d'utiliser ce sang pour justement changer de vie. Nous sommes comme Sainte Marie-Madeleine au pied de la croix. Nous avons notre front contre la croix de notre Seigneur Jésus-Christ et le sang de notre Seigneur Jésus qui coule sur notre front, qui coule sur nos âmes pour les changer. Alors mes bien chers frères, utilisons toutes ces grâces de la passion. Dieu Tout-Puissant et Éternel, qui pour donner au genre humain un modèle d'humilité qu'il eut à imiter, avait voulu que notre Sauveur prit notre chair et endurât le sacrifice de la croix, daignez nous accorder de suivre les leçons de sa passion afin que nous puissions avoir part à sa résurrection. Par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est l'oraison du dimanche des Rameaux. Passons, mes bien chers frères, par celle qui a su parfaitement accompagner son Fils. Elle non plus n'était pas coupable comme notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'elle est Immaculée Conception, la très sainte Vierge Marie. Et bien que non coupable, comme notre Seigneur Jésus-Christ non coupable a voulu porter sa croix, de même sa mère, qui n'est pas plus coupable que lui, elle a voulu être co-rédemptrice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a voulu souffrir avec notre Seigneur. Souffrir avec son Fils. Et lorsque les coups retentissaient sur le corps de notre Seigneur pendant la flagellation, il frappait aussi le cœur immaculé de Marie. Parce qu'il y a un lien direct entre le cœur immaculé de Marie et le Sacré-Cœur de notre Seigneur. Alors passons, mes bien chers frères, par le cœur immaculé de Marie pour arriver au cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ. Et de ce cœur sacré, notre Seigneur Jésus-Christ, après nous être purifiés en ce cœur extraordinaire, passé au ciel où le bon Dieu nous attend pour toute l'éternité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.